Et si le web s'effondrait ? Vent de panique hier sur l'Internet mondial. Pendant plus d'une heure, impossible de se connecter à plusieurs milliers de sites. Celui de la Maison Blanche, du gouvernement britannique et ceux de grands journaux comme Le Monde, Le Guardian ou le New York Times.
Information de dernière minute, de nombreux sites internet ont planté.
On a spéculé sur un possible piratage ciblé, mais cela n'est plus un scénario crédible.
Le bug vient en fait d'une panne chez Fastly. Cette entreprise californienne stocke du contenu partout dans le monde pour ses clients. Les internautes peuvent ainsi accéder à des sites web rapidement où qu'ils soient. Pourtant, un mois avant la panne, le patron de Fastly vantait encore le sérieux de ses services.
Il faut avant tout comprendre que la sécurité est la priorité. Nos services doivent être sûrs et nous devons le garantir à nos utilisateurs.
Dans un monde de plus en plus connecté, des failles de sécurité ou des pannes peuvent déstabiliser tout un pays et menacer des vies. Comme la semaine dernière en France, lorsque les numéros d'urgence sont restés injoignables à cause de dysfonctionnements chez Orange.
Des dysfonctionnements que l'on peut qualifier de graves et d'inacceptables.
Autre source d'inquiétude, les cyberattaques, toujours plus nombreuses et sophistiquées. Face aux demandes de rançon en ligne, au risque d'espionnage et d'ingérence dans des campagnes électorales, le Royaume-Uni réclame même une coalition internationale et n'hésite pas à désigner les États auteurs d'intrusions dans les systèmes informatiques mondiaux.
Il existe des régimes autoritaires, dont la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, la Chine, qui utilisent la technologie numérique pour saboter et voler ou pour contrôler et censurer.
Alors, dans ce nouveau Far West, comment rétablir l'ordre ? Cyberdépendantes, nos sociétés sont-elles devenues trop vulnérables ?
Si le recours massif au télétravail depuis la pandémie a-t-il fragilisé les systèmes informatiques des entreprises ? André Pietri, est-ce que c'est pire, en effet, depuis un an ? Si on est plus connecté, est-on davantage vulnérable ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on voit déjà les chiffres, le nombre d'attaques a été multiplié par un facteur 3 ou 4. On a de plus en plus le mot ransomware que personne ne connaissait.
Rançongiciel,
si vous voulez, c'est multiplié. Le pire, en plus, c'est que de plus en plus d'organisations payent et avouent payer, ce qui est
À vous payer,
ça a été le cas notamment du pipeline américain qui a été attaqué.
Ce qui du coup stimule
Ce qui stimule parce que ça devient un vrai business. Maintenant, oui, forcément, la pandémie, comme elle a accéléré la digitalisation de notre société, ça augmente autant le nombre de portes d'entrée, quelque part.
Alors, le chiffre du jour, on revient à cette géante panne d'hier.
Exactement,
Anne.
99 pour 99 minutes. C'est le temps qu'aura duré hier la panne géante d'Internet, qui a en effet mis hors service quelques grands sites de médias occidentaux, comme le New York Times, CNN, Le Monde en France, mais aussi des sites institutionnels, notamment le site de la Maison Blanche ou du gouvernement britannique. Nicolas Arpajon, expliquez-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé et qui explique que tous ces sites soient tombés en rade au même moment hier ?
Alors, ce n'est pas une panne d'Internet, c'est une panne d'un prestataire technique.
D'accord.
Un prestataire technique qui a des clients et la liste des sites Internet que vous avez mentionnés, c'est en fait la liste
des clients
de cette société. Cette société, il y aura un certain nombre d'acteurs sur le marché. Alors, on connaît Amazon, a une activité comme ça, Cloudflare, on a évidemment celle-ci.
Comment elle s'appelle celle-là ?
Alors, Fastly, c'est-à-dire qu'effectivement, son rôle, c'est en fait de satisfaire un des usages des internautes qui est que quand vous naviguez, vous appréciez que les pages s'affichent rapidement, que ces pages soient disponibles. Et donc, effectivement, c'est un appui qui est apporté à ces sites Internet d'avoir un peu un accélérateur et faciliter l'apparition des pages de manière à ce que cette fluidité que nous apprécions tant, elle est importante pour des sites Internet. Pourquoi ? Parce que c'est un élément d'appréciation. Et donc, dans l'identité d'un site, le fait qu'il soit accessible. La seule chose, c'est que ce prestataire, il est en première ligne avec les utilisateurs. Et donc, s'il est défaillant, le visiteur ne peut plus accéder au service.
Et tout le monde a le même, donc
alors,
tout le monde ou presque.
Alors, en fait, non, il y a un certain nombre d'acteurs, ils se répartissent le marché, et donc il s'avère, par contre, que quand un est défaillant, et c'est un des problèmes de ce qu'on va appeler la centralisation technologique, c'est-à-dire que quand vous confiez à un même acteur beaucoup de prestations, on l'avait connu il y a quelques semaines, courant avril, quand Google a été défaillant, effectivement, tous ceux qui avaient leur service piloté, administré par un environnement de l'écosystème Google, était mis hors d'état de fonctionner. Donc on s'aperçoit bien que la pluralité des acteurs, des fournisseurs, va être aussi un des gages de cette disponibilité qui est si importante dans le domaine numérique.
Oui, Raina Sambolisca, il peut y avoir même des conséquences fatales. Donc en effet, Elisabeth rappelait la panne du numéro d'urgence d'Orange qui a coûté vraisemblablement la mort à 4 personnes. Ça veut dire que nous sommes fragiles dans notre économie l'économie d'Internet, mais aussi que ça peut avoir des répercussions dans la vie et des répercussions fatales.
Tout à fait. C'est la monoculture, hein, comme le rappelait Nicolas, est un aspect de cette problématique-là. On en a plein d'autres. On a aussi ce que la panne de ces numéros a montré, c'est qu'on a encore des progrès à faire en matière
la panne des numéros en France.
En France, ça, là, bien sûr. Oui, oui, non. Ouais. Restons en France pour l'instant. Qu'on a beaucoup de progrès à faire aussi quant au dépassement de la fracture numérique qu'on voit, parce que là, on a été en situation de crise, c'est-à-dire il y a eu une rupture, si vous voulez, dans la façon dont fonctionnent des services essentiels, critiques,
SAMU, entre autres,
etc. Et en fait, la réponse qu'on apporte à une situation comme ça, qui ne devrait jamais arriver et qui est effectivement spectaculaire lorsqu'elle arrive, c'est très important. Et là, ce qu'on a vu, c'est que on a encore des progrès à faire, on a des améliorations à faire, parce qu'on ne peut pas imaginer que mamie, qui a 85 ans, ira sur Twitter pour savoir comment, en fait, elle doit appeler le SAMU, etc. Donc, on a une numérisation de tous les services en fait, qu'on utilise, ce qui est une bonne chose, entre guillemets, parce que ça simplifie des démarches, etc.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des avantages qu'il ne faut pas oublier sous prétexte de...
Bien sûr, mais il ne faut pas pour autant en fait, laisser des gens sur le bord de la route, juste parce qu'en en fait, ils n'ont pas les mêmes usages que vous, que moi, ils ne sont pas à l'aise avec le numérique, etc. Ouais. Et on a autant d'usages qu'il y a d'utilisateurs et utilisatrices. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc, merci à vous aussi de faire ce travail-là.
Oui, de pédagogie.
De pédagogie, bien sûr.
Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à l'affaire Orange ?
Il ne faut, pas oublier ce qui s'est effectivement passé, c'est que maintenant, la plupart de nos communications, même de voix, passent par Internet. C'est la fameuse voix sur IP. Et donc, apparemment, c'est un composant qui a été changé. Mais il ne faut quand même pas oublier non plus qu'il y a 20 ans, vous étiez perdu en pleine montagne sur une randonnée, vous n'aviez personne qui appelait. Donc, en fait.
Ce n'est pas les faiblesses d'aujourd'hui.
Les faiblesses d'aujourd'hui, c'est effectivement que cette digitalisation, on y est tellement habitué, qui fait que donc ça c'est vraiment essentiel. Après, je crois que ce que et la pandémie nous l'a montré, c'est que ce qu'on ne comprend pas assez dans nos sociétés, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a dessous, quels sont tous les prestataires. On s'est rendu compte il y a un an que finalement les masques étaient tous produits à un endroit. On se rend compte aujourd'hui qu'une partie de ce cash, dont parlait Nicolas, passe par un ou deux prestataires. C'est cette centralisation en fait. Le problème c'est pas que ça soit centralisé. Le problème c'est qu'en fait on ne le comprend pas. Donc là, il y a un vrai effort d'anticipation, de compréhension, et ça doit être fait.
Alors, oui, Nicolas Arpagian, est-ce qu'une défaillance comme celle qui a eu lieu sur le numéro d'urgence d'Orange peut être attribuée à un responsable ? Concrètement, en fait, là, est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient porter plainte contre Stéphane Richard ou est-ce que le jeu...
Des éléments techniques, c'est-à-dire que là, il faut comprendre. De toute façon, on a tous intérêt à apprendre des crises et des problématiques. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont humaines. Il va falloir analyser les environnements. C'est-à-dire qu'on a tous intérêt à apprendre, et c'est d'ailleurs une des particularités du domaine de la cybersécurité, c'est le partage d'expériences. Vous avez des réunions où se tiennent des concurrents qui vont parler entre eux de qu'est-ce qui t'est arrivé, de manière... Il ne s'agit pas de pointer du doigt, de stigmatiser, mais de comprendre. Pourquoi ? Parce que il s'avère que quand... là, on n'est pas dans le cas d'une attaque, mais dans le cas des attaques ou d'une défaillance, souvent, on va avoir des infrastructures qu'on va retrouver chez un tel ou chez un tel. On a eu le même cas avec TV5. TV5 a été piraté. Moralité, tous les patrons de médias se sont réunis et ont dit, voilà, il faut que nos équipes, pourquoi ? Parce que ce qui est à France Télévisions, c'est également présent à Arte, c'est également présent à TF1, etc. Et donc, on est peut-être concurrents dans le domaine commercial, mais en fait, dans les éléments techniques, on a besoin de se retrouver parce que personne n'a la science infuse et tout le monde a envie que ça marche. Enfin, globalement, on est plutôt prêt à batailler à la loyale. Par contre, on a des dysfonctionnements qu'on n'a pas forcément identifiés et le retour d'expérience, c'est une culture que les militaires connaissent bien quand une opération s'est tenue. Alors souvent, les civils, quand ils ont passé une crise, en général, c'est ouf, on est là et on part en vacances et on revient et ça s'est plutôt bien passé. Les militaires ont une culture du retour d'expérience.
Ils refont les batailles.
Voilà, de reconseiller pour te dire, voilà, où est-ce que ça... Et de manière après, on partage l'information. On partage l'information de manière à ce qu'on documente les modes opératoires et les moyens de se protéger.
Et précisément, André Pietri, alors, votre voisin évoque la réunion de tous les patrons de chaîne. Le Royaume-Uni a évoqué la possibilité ou la nécessité de créer une coalition des démocraties occidentales, vraisemblablement, pour lutter contre les cyberattaques. Est-ce que c'est vraiment envisageable ?
concrètement?
Alors, c'est sûrement.
C'est souhaitable, oui, mais est-ce que ça va se faire?
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment, vous le citiez, c'est l'arme du pauvre. C'est-à-dire aujourd'hui, de plus en plus, les régimes autoritaires, notamment Russie et Chine, ils s'en cachent de moins en moins. La Corée du Nord, avec la fameuse, ces fameuses attaques sur les studios Sony il y a quelques années, était emblématique du genre.
Au moment de la sortie d'un film qui était très défavorable à la Corée.
Voilà, qui était sur le grand, comment on appelle ça, le grand dirigeant
Kim Jong-un. Oui.
Et donc forcément, il y a besoin d'avoir une alliance des démocraties parce qu'aujourd'hui, la déstabilisation. Sans une guerre, comme on dit, chaude, c'est-à-dire sans véritablement d'intervention militaire comme on le connaît, ben c'est la guerre de l'ombre.
Mais comment c'est possible que ce ne soit pas déjà le cas? Est-ce qu'on n'a pas déjà un train de retard?
C'est le cas.
On commence à peine à réfléchir à une coalition.
Pour vous donner un chiffre, parce que je pense qu'il est emblématique, on estime qu'il y a à peu près un demi-million de malware, c'est-à-dire de logiciels malveillants qui sont émis tous les jours. Et c'est la problématique. Nicolas a raison sur le partage d'expérience. Moi, ma grande inquiétude, c'est que le passé ne veut pas forcément prédire l'avenir. Et on a de plus en plus, d'ailleurs, un mélange entre intelligence artificielle et cybersécurité qui fait qu'on va avoir des virus. Ça va, ça, comme terme. qui ne vont plus ressembler et même qui vont muter en fonction des défenses qu'ils vont rencontrer. Donc à nouveau, il faut un rétex, comme les militaires le disent, mais il faut aussi une capacité d'imaginer ce qui ne s'est pas produit avant. Et là, on est particulièrement mauvais dans nos démocraties. C'est comment est-ce que même cognitivement, on arrive à imaginer des choses. Donc là le terme de diversité, d'approche, d'expérience est absolument nécessaire. Et là, probablement, l'Europe devrait avoir une carte à jouer. Bon, on est plutôt unis dans la fragmentation. Ce qu'il faudrait, c'est être fort par la diversité.
Donc, oui, Raina Symbolyska, la liste des suspects usuels est toujours la même. Donc, vous les avez cités, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Mais est-ce que les autres, les démocraties même, et nous-mêmes, nous ne pratiquons pas, nous aussi, les attaques, les cyberattaques?
Alors, je préfère parler de diplomatie offensive.
D'accord, ok.
C'est
quoi la différence?
Voilà, en fait, pour moi, les mots sont importants. Donc, c'est vrai que je rejoins Nicolas là-dessus sur la qualification très prudente. Oui. En fait, il y a des incidents de sécurité, il y a des incidents techniques, etc.
Et en quoi ça consiste alors
Si vous voulez, la question est comment est-ce que je fais pour promouvoir mes valeurs politiques, démocratiques, sociétales, culturelles.
C'est de la propagande, ce que vous décrivez?
Pas nécessairement. La France, quand la France fait de la francophonie, est-ce que c'est de la propagande? Bon. Donc, en fait, c'est très délicat, toujours. Nous, on a, en fait, une démarche d'attribution, de pointer du doigt, de dire, les responsables vont mieux les nommer que les chercher, qui, en fait, se défend de notre point de vue, parce que en fait, ça nous permet de déployer des façons de faire pour défendre les valeurs démocratiques que nous, en fait, qui nous sont chères. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on prend le soin justement de rester? Parce que là, ce dont on parle, c'est on parle d'opérations en temps de paix. Mais avec le cyber, avec le numérique au sens très large, il est extrêmement délicat de savoir à quel moment, en fait, je passe le seuil.
On reste dans les limites, Nicolas Arpajon, toujours. On a les mains propres.
Elisabeth Quint a évoqué en ouverture la notion d'allié. Le problème, c'est qu'on peut faire une alliance. Évidemment, en tant que gens de bonne foi, on est toujours volontaire pour mener des actions. Là, la seule chose, c'est que, et l'exemple récent de l'Allemagne qui a conduit des opérations d'interception, on est allié. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'Allemagne est un ami, un partenaire diplomatique, économique. Mais dans le domaine du renseignement, c'est un peu du chacun pour soi. C'est ce que j'évoquais en disant les expertises. On n'a pas mutualisé au niveau européen le savoir-faire. La France a une agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'Allemagne a un équivalent. Nous avons une capacité offensive au ministère des armées. Les Allemands et tous les pays ont. On n'a pas mutualisé. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des intérêts stratégiques nationaux. Et surtout, on n'écarte pas la possibilité de l'utiliser à l'encontre d'alliés. Et donc, c'est vrai que la faute à chaque fois, c'est pas tellement de conduire les opérations, c'est de se faire prendre. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, on a bien vu les dénonciations, que ce soit d'ailleurs avec l'affaire Snowden. Snowden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a documenté ce que des gens supputaient. Simplement, il l'a rendu matériellement tangible et démontré. Et il